Carrefour.
Quand vous me dites
Carrefour baisse ses prix.
Oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés au rayon yaourt surgelé et traiteur de la mer. Comme le pot de 850 g de yaourt protéiné nature 0% skyr de Yoplait qui passe de 3,76€ à 3,39€, soit 10% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur.
Prix baissé à compter du 1er juillet 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détaillez liste des produits concernés sur carrefour.fr. Pour votre santé, bougez plus.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Rémi Barret.
Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h sur RMC, RMC Story, canal 23 de la TNT. Autour de moi, il y a toujours Paul Lassène, journaliste RMC, Perico Légas, journaliste à Marianne, Thierry Moreau, journaliste média, et Yaël Mellul, ex-avocate, présidente de Femmes et Libres. Dans un instant, on va parler de cette coalition nationale pour faire face à une éventuelle arrivée au pouvoir du RN. Il y aurait donc cette idée de coalition nationale qui pourrait aller depuis le PCF, le Parti communiste français, peut-être jusqu'au LR. Et on vous pose la question, se moque-t-on des Français? Vous nous appelez au 3216. À 13h45, ce sera le meilleur du jour sur RMC avec le zapping. Et puis on continue de jouer. Paul, il est question de ballon rond.
Oui, cette semaine, RMC vous envoie en Allemagne.
L'euro.
Pour assister. Mais oui, évidemment, pour assister à la demi-finale de l'Euro 2024 qui aura lieu mardi prochain,
Munich.
Le 9 juillet à 21h. C'est à Munich. On vous offre l'expérience RMC.
Tu veux que
le vol et l'hôtel jusqu'à Munich. Ensuite, Rémi,
tu veux que je t'écoute?
Voilà, vous rencontrerez toutes les équipes d'RMC présentes sur place avant le match et bien sûr vos deux places pour la rencontre. Je vous le rappelle, c'est mardi prochain, le 9 juillet à 21h. Alors, dès que vous entendez cette alerte à l'antenne, vous avez 5 minutes pour vous inscrire en envoyant Euro au 7-32-16. Euro au 7-32-16.
RMC Estelle Midi.
Oui. Le grand écart du jour. Face à la montée du RN, l'idée d'une coalition nationale à l'Assemblée et à Matignon fait son chemin. Dernier en date à l'évoquer, Paul, Fabien Roussel.
Oui, le patron du Parti communiste l'a dit ce matin, même s'il dénonce clairement une tambouille politicienne. Il affirme qu'il ne lâchera rien pour battre le RN et ne forme pas la porte à une coalition géante qui irait donc de son parti jusqu'à certains députés républicains. Il succède à une autre responsable du nouveau Front Populaire, elle aussi ouverte à un gouvernement de coalition, Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes, qui le dit. Il faudra sûrement faire des choses que personne n'a jamais faites auparavant dans ce pays. Ce qui est sûr, c'est que cela doit se faire sur des bases politiques claires. La question, c'est plutôt pourquoi faire que avec qui, posant comme unique condition de ne pas finir avec un Premier ministre macroniste. Et justement, du côté de la majorité présidentielle, l'idée, là aussi, elle est loin d'être exclue. Si le Premier ministre Gabriel Attal se veut plutôt prudent dans ses déclarations, l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, est beaucoup plus claire. Elle évoque depuis le début de la semaine une grande coalition allant des LR aux écologistes et aux communistes. Et même à droite, Rémi, l'idée en séduit certains. Xavier Bertrand, président Les Républicains de la région Hauts-de-France, appelle de ses voeux un gouvernement provisoire, un gouvernement qui rassemblerait les hommes et les femmes de bonne volonté, capables de s'ouvrir sur un projet concret, dit-il. Alors, est-ce que c'est une rustine pour contrer le RN? Est-ce que cela va convaincre les électeurs? La question se pose, puisque d'après un sondage IFOP publié hier, 63% des électeurs sont opposés à une majorité absolue pour le Rassemblement national.
Une coalition nationale des communistes jusqu'au LR. Est-ce que c'est vraiment réaliste? Se moque-t-on des Français? Vous nous appelez au 32-16. Perico Légas.
Non. C'est, dans l'histoire de France, une formidable initiative politique. Si elle est sincère et si elle est solide, ça sera la démonstration au pays que la classe politique peut s'entendre dans un conscience de bien commun intérêt général, si c'est sincère. Bien sûr, on peut dire, attendez, pendant 2 ans de majorité relative, non seulement vous vous êtes pas entendu, vous avez été incapable de vous mettre d'accord, hormis quelques points, et au point de vous détester, alors que vous aviez l'occasion par la majorité relative.
Même quand ils ont essayé de se rassembler à gauche au sein de la NUPES, ça a explosé.
Et tout d'un coup, parce que 11 millions de Français lance un cri de souffrance, alors là, vous avez peur et vous vous mettez d'accord avec des gens que vous insultiez, vous détestiez hier. Ça, c'est une vision. D'accord, on le prend pour eux. Mais si vraiment la représentation nationale, c'est le nom de l'Assemblée nationale, ça le représente du peuple français, et là, on prévient que ça va être ça, que les électeurs dimanche, quand ils vont aller voter pour des partis autres que la France insoumise et l'Assemblée nationale, ils savent qu'il y a une probabilité de coalition, d'union nationale pour prendre le gouvernement de la République pour sortir de l'impasse. En plus, avec un président de la République qui sera rejeté. C'est pas lui qui sera à l'origine de ça, de cette union nationale, puisqu'il y a des gens qui ne l'aiment pas. Eh bien, ça sera une formidable leçon, un formidable message politique d'apaisement, de conciliation. Voilà. Peut-être qu'un jour, le Rassemblement National, comme le Parti Populaire Espagnol, qui était un parti franquiste, qui est devenu un grand parti démocratique, on disait que M. Aznar était un président du gouvernement génial, peut-être qu'un jour que la classe politique française va s'apaiser, Mélenchon n'est pas éternel, il y aura peut-être à l'extrême gauche des gens qui prendront le taureau par les cornes pour poser les problèmes avec plus de sérénité et plus de sérieux. Moi, je crois, parce que les Français l'appellent. Les Français sont pas violents. Les Français, ils veulent la conciliation, là. Et quand ils disent on vote RN, c'est parce qu'on a tout essayé, ça marche pas. Si on leur prouve que ça peut marcher, de Fabien Roussel jusqu'à Gérard Larcher, et qu'on fait gouvernement avec un programme clair, des lois nécessaires, où on va prendre une partie de ce qui fait peur aux Français. Oui, on va régler l'immigration. Oui, on va régler l'injustice. Oui, ce qui ne marche pas en Europe. Oui, les inégalités. Oui, la sécurité. On va le prendre. Eh bien, moi, je suis optimiste. Et je serai évidemment favorable à ce qu'il y ait cet grand élan républicain. Si c'est un stratagème et un astuce juste pour contourner le Rassemblement national, ça se finira très mal et ça aggravera la situation.
Thierry.
Moi, je trouve que c'est un peu de la rhétorique électorale et que pour l'instant, cette coalition, elle est totalement virtuelle. Parce que pour avoir un gouvernement de coalition, il faut une coalition de gouvernement, c'est-à-dire un programme. Et donc, un programme qui irait de Fabien Roussel à Marine Tondelier, en passant par Darmanin, Olivier Faure, Édouard Philippe et Christian Estrosi.
C'est ambitieux, hein.
Ça me paraît compliqué.
Oui, très...
Parlons à ce moment-là d'un gouvernement d'union nationale, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Moi, ce qui me gêne, c'est que je pense que ça risque d'avoir un effet pervers. C'est-à-dire que là, on est en train d'expliquer aux gens que pour tout sauf le RN, on est en train de constituer une coalition de briques et de brocs qui, pour l'instant, n'existe pas, encore une fois. Elle est juste là pour inciter au désistement, parce que les désistements organisés par les appareils, ils vont peut-être pas se transcrire auprès des électeurs. Donc, pour dire aux électeurs, suivez nos conseils et désistez-vous quand il y a un Rassemblement National à ne pas faire élire, pour faire passer cette injonction, ils disent « Soyons tous unis contre le Rassemblement National ». Sauf que, ça oublie une chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'une partie de l'électorat aujourd'hui du Rassemblement National a envie du Rassemblement National. Et que faire obstacle avec une coalition de briques et de brocs à une envie démocratique d'un certain nombre de gens dans notre pays du Rassemblement National, ça peut être explosif. Après, effectivement, si on en croit les sondeurs, on va avoir trois blocs dont aucun n'aura la majorité absolue. Ouais. Et dans ce cas-là, effectivement...
Et puis Thierry, il y a un autre risque, effectivement, c'est celui que tu évoques.
Oui.
Un électeur macroniste, par exemple, il y en a encore,
hein, oui.
qui ne veut absolument pas travailler avec une centaine de Rousseau. Et tu peux avoir un électeur écologiste qui apprécie Jean-Denis Rousseau, qui ne veut plus du tout entendre parler d'élu Renaissance.
D'où mon dernier propos, qui sera sans doute le fait de trouver...
Il ne va pas aller voter dimanche.
Le fait de trouver non pas une coalition de gouvernement, mais trouver un Premier ministre qui sera sûr de ne pas se faire rejeter par une motion de censure, justement de tous ces gens-là dont on parle, du PC aux Républicains, pour avancer sur des réformes techniques. Je crois plus à cette idée-là.
Une coalition nationale des communistes jusqu'au LR. Se moque-t-on des Français ? Vous nous appelez au 32-16.
Alors, non seulement on se moque des Français, mais c'est même bien pire que ça. Moi, j'utiliserais plutôt le terme de trahison. On les trahit, parce que quand Gabriel Attal appelle au barrage, même avec un bulletin LFI dont les sympathisants ont hurlé Place de la République la semaine dernière « Israël, casse-toi, la Palestine n'est pas à toi », quand les uns ont vomi sur les 49-3 et la réforme de retraite et les autres ont qualifié LFI de parti antisémite, communautariste, antiparlementariste il y a à peine 15 jours, d'accord ? Pour moi, ça c'est de la trahison. Quand un ensemble appelle à voter pour Guiraud, qui est un ennemi.
Attention, dans cette coalition, il n'y aurait pas LFI.
Oui, il faut préciser.
LFI serait exclu.
Tous les gens dont on parle depuis tout à l'heure ont tous dit très clairement que la majorité présidentielle.
Il y a les paroles.
Les autres membres. Oui, mais alors, à un moment, si on ne croit pas la parole des politiques, ça ne sert plus à rien.
Ah bah, je peux dire qu'il y a un certain nombre de Français qui ne croient plus.
Alors, pardon, excuse-moi de te contredire.
Tous les gens qu'on a cités le disent. On ne veut pas
sans LFI.
Ça sera sans LFI.
Et ensemble, appel à voter pour Guiraud.
Oui, non, mais là, on parle au niveau national. On ne parle pas au niveau local. Au niveau national.
Mais comment ça, on ne parle pas
au niveau national? Non, mais c'est.
Enfin, je veux dire.
Non, attendez.
Amène à la cohésion.
Et s'il vous plaît, Yael, Paul a raison dans ce qu'il dit, mais Yael, tu as aussi raison. Tu as aussi raison. Quand, effectivement, officiellement, c'est on ferait une. J'emploie le conditionnel. On ferait une grande coalition nationale qui pourrait aller des communistes jusqu'à LR, mais sans LFI. Et puis en même temps, c'est vrai, en même temps, on voit au niveau local.
En même temps encore.
Il y a des appels. Bon, bah, si, c'est un candidat LFI, mais on appelle quand même à voter contre le RN. C'est vrai que. Mais tu as raison.
Pardonnez-moi, mais je n'ai pas inventé.
Gabriel Attal
a appelé au barrage. Même avec un bulletin LFI.
C'est faux.
C'est vrai.
Je vais te dire le tweet qu'il a publié il y a 48 heures.
On va vérifier tout de suite.
Il y a absolument aucun.
Il l'a fait il y a 48 heures.
On ne croit pas qu'on peut distinguer les adversaires politiques des ennemis politiques. Est-ce que justement.
Pour moi, un ennemi politique, aujourd'hui,
Union nationale, c'est pas de rassembler des adversaires politiques.
Mais tu ne peux pas rassembler des ennemis politiques. D'accord. Ce n'est pas. Tu ne peux pas dialoguer, tu ne peux pas travailler avec des gens qui, aujourd'hui, assument clairement leur antisémitisme. Je suis désolée. Quand un candidat Horizon se retire au profit d'une candidate qui est Alma Dufour, comment tu veux que des électeurs Horizon, d'accord, votent pour une candidate qui est Alma Dufour? Déjà à la base.
Ça va être difficile.
Comment tu veux que des électeurs ensemble votent pour
Non, mais tu as raison. Je te pose la question, mais tu as raison.
Regarde, aujourd'hui, tu es électeur, on va lire dans un instant, Paul, le tweet. Mais regarde, quand tu es électeur, je sais pas, LR modéré, je parle pas de ceux qui ont rejoint le RN avec Ciotti. Mais si tu es électeur RL ou LR, ou électeur Renaissance, on te demande aujourd'hui, on te demande de voter même pour un candidat socialiste, sachant que ce candidat socialiste fait partie d'une coalition, le Nouveau Front Populaire, auquel appartient LFI. Donc ce candidat socialiste était d'accord pour faire partie d'une coalition dont fait partie LFI. Et aujourd'hui, on te dit, oui, mais ça sera sans LFI, mais lui, vous pouvez voter pour lui. Enfin, moi, je me mets à la place de l'électeur.
Pour faire très court, il y aura des députés Renaissance de cette coalition qui seront élus avec des voix de la France insoumise.
Absolument.
Donc, il y a une confusion.
Absolument. Et quand tu as Édouard Philippe qui appelle à voter pour un candidat communiste, on va me faire croire aussi que les électeurs Horizon, ils vont aller voter pour un parti communiste. Et je voudrais terminer sur quelque chose qui me semble absolument essentiel. Le droit de vote, c'est un droit fondamental qui est protégé par la Constitution. D'accord? C'est un droit qui est secret, personnel et libre. Donc je voudrais qu'on arrête de prendre les citoyens français pour une marchandise, d'accord, qu'on transporte de parti en parti au gré de manigances qui sont bassement politiciennes. Et je voudrais dire aux gens qui nous écoutent, faites ce que vous voulez. Voilà.
Alain est avec nous au 32-16. Bonjour Alain.
Bonjour à tous.
Merci Alain, c'est passionné. On est dans les Alpes-Maritimes, c'est ça?
Absolument.
À Menton?
À Menton, on a fini de voter, nous.
C'est-à-dire que le candidat, il y a déjà un candidat d'élu qui a fait plus de 50%.
Absolument.
Ok, Alain, est-ce que vous avez l'impression qu'on se moque des Français?
Mais totalement, mais ça fait déjà plusieurs élections que c'est ainsi. Moi, je veux bien qu'on parle de Front Républicain, mais comment vous arrivez à associer la carpe et le lapin, qui pensent totalement différemment les uns des autres, qui ne s'entendent pas sur les plateaux et au quotidien, et qui aujourd'hui vont nous expliquer qu'ils vont être capables de gouverner. Et d'autre part, je pense que le principal fautif s'appelle Emmanuel Macron, qui est à bord du Titanic et nous conduit vers l'abîme. Donc on est en train de sombrer et lundi matin, les gens vont se réveiller, auront été contents dimanche soir en voyant les résultats, sans aucune majorité, parce que j'ai vraiment des doutes sans LFI qu'on puisse avoir une majorité de centre. Et du coup, lundi matin, on fait quoi? Et ça, personne n'y pense. Il n'y a pas de programme. Il n'y a pas de programme. Il n'y a rien.
Il n'y a pas une campagne, il n'y a pas de programme.
Voilà. Et d'un côté, on nous parle d'un chaos très proche. D'un côté, on nous parle d'une possible guerre civile. D'un côté, on nous parle de 25 milliards à trouver pour l'Europe.
C'est vrai qu'on a oublié ça. Ouais.
Et finalement, sur quelle base allons-nous gouverner lundi? Sur quelle base on va conduire ce pays? Alors, si c'est juste pour les JO, excusez-moi, mais on marche sur la tête et je pense que les Français vont se réveiller lundi matin avec la gueule de bois.
Vous êtes inquiet, là, de ce qui va se passer?
De ce qui peut se passer? Je pense pense qu'à un moment donné, il n'y a plus à être inquiet. On a mis quelqu'un qui est totalement irresponsable à la tête de ce pays. Je vous rappelle juste quand même qu'il a fait une campagne présidentielle sans aucun programme. Il n'a pas fait de premier tour. Il n'a pas fait de campagne de premier tour.
Oui, il n'a pas fait de campagne, mais il avait un programme.
Et au deuxième tour, qu'est-ce qu'on a eu comme programme? Tout sauf le RN. Alors moi, je veux bien, on peut être anti-RN, on peut être pour et autres. Mais pour autant, à un moment donné, soit on se dit républicain et donc ils se présentent aux élections en toute légalité et donc ils sont républicains. Je suis désolé.
On en parlait hier. Vous avez raison. Jusqu'à preuve du contraire, le RN est un parti démocratique, légal, républicain, et c'est la même chose pour LFI. Hein, donc voilà. Alors, allez-y, Alain.
Non, je disais ça vaut pour les deux. Et aujourd'hui, il faut que les Français prennent conscience que on a des renaissances qui demandent aux gens de voter pour un candidat LFI. On marche sur la tête.
On n'y comprend plus grand chose en tout cas. Merci Alain d'avoir été avec nous. Alain qui nous appelait depuis longtemps dans les Alpes-Maritimes. Stéphane Troussel nous rejoint. Bonjour Stéphane Troussel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes président PS du département de Seine-Saint-Denis, porte-parole du Parti Socialiste. Merci encore une fois d'être avec nous dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Bon, c'est pas fait, mais on sent que cette coalition nationale à l'Assemblée, peut-être même à Matignon, certains essaient de la mettre en place. Vous y croyez, Stéphane Troussel? Ça peut se mettre en place, c'est du jamais vu. Hein. Marine Tourdelier, la patronne des écologistes, dit qu'on peut essayer quelque chose qui n'a jamais été fait.
Eh bien, je crois que c'est absolument pas le sujet de la semaine et des jours qui viennent.
C'est Marine Tourdelier, c'est Fabien Roussel.
Écoutez, moi, je crois que le seul sujet qui doit nous préoccuper dans les quelques jours qui nous séparent du premier tour, c'est de faire en sorte que dans ce pays, la République, elle soit respectée. Et la République, c'est pas qu'un slogan, c'est pas que liberté, égalité, fraternité. La République, c'est notamment des services publics. C'est des services publics qui ne trient pas les concitoyens, des services publics qui accueillent de manière inconditionnelle, des services publics qui agissent pour l'égalité entre les citoyens et tous les territoires. Et donc, le seul combat que nous avons à mener, quand nous croyons à la République, c'est de combattre l'extrême droite et de faire en sorte, moi je ne crois pas aux sondages, je ne crois pas aux projections, c'est pas parce qu'il y a je ne sais quel sondage, institut qui aurait donné l'absence de majorité pour l'extrême droite, que nous ne devons pas continuer d'être mobilisés. Le seul combat qui doit nous animer dans les jours qui restent, c'est d'empêcher que Bardella soit Premier ministre de ce pays.
Et on verra après Stéphane Troussel, donc?
Non, mais d'abord, c'est la tâche qui doit nous occuper. Et c'est la seule. C'est la seule. Ensuite, eh bien, la France continue d'être gérée actuellement. La France continue de tourner. Les Français, lundi matin, pour ceux qui ont la chance d'en avoir un, ils iront au boulot. Les autres, ils espèrent finir le mois parce que le 15 du mois, c'est de plus en plus la fin du mois pour les plus fragiles de ce pays. Et donc, c'est ça qui va les préoccuper. Donc, il n'y a pas d'urgence lundi matin à réfléchir à je ne sais quoi.
D'accord.
Mais, écoutez, face au sentiment d'abandon, de relégation, face à la colère qui s'est exprimée dans notre pays, dans les territoires ruraux, dans les quartiers populaires de Seine-Saint-Denis, dans les territoires périphériques déclassés, le pire ce serait de donner le sentiment qu'il y a je ne sais quel tripatouillage qui s'organise. Moi ce que je veux, c'est l'abandon de la réforme des retraites qui fait que les gens les plus
fragiles, on a compris Stéphane Roussel, pas de tripatouillage, vous voulez du concret et pour l'instant ce qui compte c'est dimanche et le vote de dimanche. Merci Stéphane Troussel d'avoir été avec nous, président PS du département de Seine-Saint-Denis, porte-parole du PS. On l'entend avec le porte-parole du Parti Socialiste, c'est pas encore fait la coalition, ou en tout cas il y a déjà, je suis désolé, mais moi quand j'entends Fabien Roussel ce matin, personne ne l'oblige à répondre à cette question, le patron du PCF. Est-ce qu'on peut imaginer une coalition nationale? Il répond, il dit oui, pourquoi pas. Marine Tourdelier, personne ne l'oblige à dire oui, vous êtes pour ou contre, à répondre en tout cas à cette question d'une coalition nationale. Elle dit, je suis prête, pourquoi pas, à travailler avec certains au centre et à droite. Là, il y a Stéphane Roussel, porte-parole du PS, qui dit non, c'est pas le sujet.
Là, c'est la poussière sous le tapis.
Je sais pas.
Parce que 11 millions de Français sont traités comme des salauds.
Ça me semble important, dire que Gabriel Attal a appelé à faire barrage au RN, même avec un bulletin LFI, hier sur France Inter.
D'accord. Alors, le tweet de Gabriel Attal, il y a 24 heures, je vais le lire. On parle aujourd'hui d'une grande coalition gouvernementales et à l'Assemblée. On ne parle pas du second tour des élections législatives qui a donc lieu.
Oui, mais
dimanche.
Là, on ne peut pas aller sans l'autre en même
retrouve,
temps.
Pour éviter une victoire d'un candidat du RN, pour éviter de donner une majorité absolue au RN, se désister ne veut pas dire se rallier. Il n'y a pas et il n'y aura jamais d'alliance avec la France insoumise.
Et donc, on appelle à voter quand même pour eux.
Je ne fais que rapporter les propos de Gabriel Attal.
Non, mais d'où la confusion. Non, mais
je suis là pour rapporter des faits.
C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. D'où cette confusion. Moi, je suis désolé. Encore une fois.
Les électeurs jugeront.
Exactement. Et je pense à ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent. Il y en a un certain nombre d'entre nous, en tout cas, qui sont complètement perdus.
Ah, bah oui.
Samy est avec nous. Bonjour, Samy.
Oui, bonjour.
Merci de nous rejoindre.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre sur RMC et sur RMC Story dans Estelle Midi. Vous nous appelez depuis le Loiret, c'est ça?
C'est ça, c'est bien ça.
Bon, Samy, vous êtes perdu ou ça va?
Non, moi, selon moi, le principal enjeu ce week-end, c'est est-ce que oui ou non, le Rassemblement National parviendra à avoir la majorité absolue, en fait, à l'Assemblée nationale. Donc, n'importe quelle alliance, même si celle-ci est hétéroclite d'un point de vue idéologique, tant qu'elle qu'elle est susceptible de permettre au Rassemblement National de ne pas disposer de la majorité absolue à l'Assemblée Nationale, je suis partisan. Ce que je refuse de mettre sur un même pied d'égalité, contrairement à ce que font certains, notamment une intervenante c'est Yael, refuse de mettre sur un même pied d'égalité LFI et le Rassemblement National. Le Rassemblement National, qu'on le veuille ou pas, reste encore aujourd'hui un parti d'extrême droite de par son programme, alors que cette femme que je ne connais pas propage selon moi des fake news lorsqu'elle parle d'antisémitisme.
D'accord, bah on discute.
Excusez-moi.
Ouais. Non, mais je ne peux pas vous laisser prendre un parti.
J'ai pas beaucoup de temps.
Je vais vous laisser parler.
Au moins un nom d'un candidat LFI qui a été condamné pour antisémitisme. Qu'elle me dise.
Mais ça marche pas, ça marche pas. J'ai pas besoin de condamnation pour dire que les insoumis véhiculent de l'antisémitisme ordinaire. Voilà.
Non, vous pouvez pas parler d'antisémitisme ordinairement.
Je le fais d'ailleurs.
Le droit est là pour réprimer. Ouais, bah
vous pouvez faire le même reproche, Samy, dans ce cas-là, vous pouvez faire le même reproche à un certain Emmanuel Macron, président de la République, qui a dit qu'il y avait de l'antisémitisme au sein de ce parti. En tout cas, d'un certain nombre de ses responsables. Vous pouvez faire le même reproche à Édouard Philippe, qui a dit que ce sera ni LFI ni RN, parce que ce n'est pas possible de travailler avec les uns ni avec les autres. Donc, il n'y a pas que Yael.
Samy, dites-moi, j'ai juste une petite question. Raphaël Arnaud, qui se présente, qui est un antifa, fichés, qui le 7 octobre 2023 a fait l'apologie des atrocités commises par le Hamas, en disant que le combat pour la libération de la Palestine commençait ce jour-là. Il n'a pas encore été condamné, la procédure est pendante, mais pour vous, ça passe, il n'y a pas de problème.
Non, j'en sais rien, mais en tout cas, Samy, il n'est plus là, de toute façon, je pense que tout à l'heure, on en revient au premier sujet, je pense qu'il y a certaines positions qui sont irréconciliables.
Ah, ça c'est clair.
On est d'accord. Merci à Samy d'avoir été avec nous au 32-16, on vous a posé la question. Une coalition nationale qui irait des communistes jusqu'au LR, est-ce qu'on se moque des Français?
Il n'y a pas photo, vous répondez oui pour 92% d'entre vous. Et je me permets, Rémi, de répondre à la question d'Obélix sur Direction. On va détendre un peu l'atmosphère.
Fidèle Obélix.
Avec tout ce bazar, est-ce que quelqu'un peut me dire où est la flamme olympique aujourd'hui?
Albert? Non, dans la Samillière.
Hasard du calendrier, il nous pose la question. Elle est à Amiens.
Ah bah oui, je savais qu'elle était par chez moi.
Chez le président de la République.
Allez, dans un instant, les Français en direct. Notre Tour de France des législatives. C'est vous qui avait la parole. On va aller, si je ne me trompe pas, dans le Loiret. Je crois que c'est dans le Loiret. Dans le Loiret-Cher, pardon. Dans un instant. A tout de suite dans Estelle Midi.
RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Rémi Barret.
Estelle Midi, midi 14h sur RMC, RMC Story, canal 23 de la TNT. Le deuxième tour des législatives. Bah, c'est dimanche, là on est dans l'entre-deux-tours.
Deuxième tour.
Vous en êtes où? Direction le Loiret-Cher.
RMC. Législative 2024, les Français en direct.
Et du côté de Blois, on retrouve Caroline Philippe, reporter RMC. Salut Caroline.
Salut Rémi, salut à tous.
On fait le tour de France des électeurs. On teste le pouls, on prend le pouls plutôt de la France, là, durant cet entre-deux-tours. Caroline, tu es avec qui aujourd'hui?
Eh bien, je suis avec Jérôme. On est dans son jardin, au soleil, dans le Loir-et-Cher. Donc,
première information, il y a du soleil dans le Loir-et-Cher.
Absolument. Bah, quelques nuages quand même. Jérôme, il se lève tous les matins à 4h pour aller travailler dans une boucherie à 30 km de chez lui. Il a 52 ans, 3 enfants. Jérôme, il est chanceux, il est déjà en vacances et il part avec tout le monde demain en Bretagne. Mais il a fait sa procuration pour dimanche et Jérôme va voter pour le Rassemblement National comme au premier tour. Et ça fait déjà plusieurs années qu'il a fait le choix de ce parti.
Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RMC, RMC Story. Jérôme, vous êtes dans quel état d'esprit là, quelques jours de ce deuxième tour ?
Ouais, disons que moi personnellement, je me sens plutôt serein, mais également aussi inquiet par rapport à ce qui va se passer prochainement. Voilà, on ne sait pas trop vers qui on va se diriger. Donc
parce que vous avez voté RN au premier tour, vous allez voter RN au second tour. Vous espériez, j'imagine, la majorité absolue ?
Oui, tout à fait.
Et là, c'est plus ou moins remis en question, on a l'impression, avec les barrages notamment, avec les désistements.
Oui, exactement. Donc maintenant, est-ce que ça va être une coalition ? Est-ce qu'on va avoir une majorité absolue ? Maintenant, ça va être le pouvoir des électeurs qui vont décider dimanche. Mais moi, je pense que, donc je parle pour moi, je pense que les Français ont déjà leur vote en tête et ça ne changera pas grand-chose dimanche soir, je pense.
Jérôme, vous avez toujours voté RN ?
Non, donc j'ai voté, avant je votais UMP, RPR, donc
d'accord.
Jusqu'à Jacques Chirac.
Et après, donc jusqu'à après Jacques Chirac, enfin, son dernier mandat.
Oui, voilà, jusqu'au dernier mandat de Jacques Chirac, oui.
Pourquoi aujourd'hui, vous avez franchi ce cap ?
Donc voilà, moi personnellement, la politique de M. Sarkozy ne me convenait pas du tout. Donc voilà, il y a eu aussi tous ces problèmes qu'il a eu après. On a eu après François Hollande. Hollande, ça a été une catastrophe pour moi. Donc je pense que pour tout le monde aussi. Il a eu un ministre qui, actuellement, est à la tête de l'État.
Emmanuel Macron, oui.
Oui, voilà. Donc la politique ne me plaisait pas du tout. Et vis-à-vis de ce qui se passe actuellement, ça me renforce sur mon.
Mais dans votre vie quotidienne, parce que vous, on l'a entendu avec Caroline. Hein, vous vous levez tous les jours à 4 heures. Vous avez 52 ans. Vous êtes ce qu'on appelle parmi ces Français qui se lèvent tôt. Vous attendez quoi du RN ?
Donc moi actuellement, voilà, le programme de Jordan Bardella aujourd'hui me propose une retraite à 60 ans. Moi personnellement, à 60 ans, je suis preneur pour arrêter de travailler. Et également, donc il nous propose. Alors ce sont également des promesses. J'espère qu'il les tiendra.
Ah voilà, c'est ce que j'allais vous demander.
Il va toucher à la TVA sur le carburant, sur tout ce qui nous touche.
C'est du concret. Ce que vous attendez, voilà, c'est du concret.
Ouais. Donc voilà, c'est des solutions immédiates proposées aux Français. Donc moi, voilà, je suis personnellement touché par ça, parce que bon, le carburant, tous les jours, ça me coûte énormément.
Ouais.
Donc voilà, moi, voilà, c'est des solutions qui sont concrètes dans l'immédiat pour moi.
Et qu'est-ce qui fait que lui réussir Caroline. Et pas un autre, parce que c'est des mesures concrètes, on l'entend, mais vous lui faites entièrement confiance pour résoudre tous vos problèmes du quotidien ?
Alors, moi, personnellement, je lui apporte ma confiance. Maintenant, s'il devait, lui, me trahir dans ma confiance, dans mon vote, voilà, je changerais d'opinion aussitôt.
Vous voulez essayer, c'est ça ? C'est ce que vous me disiez tout à l'heure ?
Oui, voilà, moi, je veux essayer un parti qui n'a jamais eu sa chance jusqu'à maintenant. Voilà, on peut leur laisser leur chance. Maintenant, je pense que s'ils se trompent, je pense qu'ils seront très sévèrement punis par la suite.
Merci Jérôme d'avoir été avec nous dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Merci à Caroline Philippe d'avoir été avec nous également du côté de Blois, dans le Loir-et-Cher. Et puis on espère que le soleil va se maintenir, Caroline. Allez, on t'embrasse dans un instant.
À très vite.
La suite d'Estelle Midi sur RMC avec le zapping. À tout de suite.
RMC, midi 14h. Estelle Midi,
Rémi Barret.
Estelle Midi, tous les jours, midi 14h sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT. Tout de suite, c'est le meilleur du jour sur RMC.
RMC, Estelle Midi,
le zapping RMC.
Ah ben on a eu une idée comme ça, on s'est dit le meilleur du jour, comment on pourrait l'appeler ? On l'a appelé le zapping. Pourquoi pas ? On commence avec les GG. On commence avec les GG. François Ruffin peut-il devenir le prochain leader de la gauche ? Hier, le député sortant de la Somme a officiellement annoncé qu'il allait quitter le parti des Insoumis en cas de réélection ce dimanche. En profond désaccord avec Jean-Luc Mélenchon, il préfère désormais travailler avec les communistes ou les écologistes. Une décision que salue le chef d'entreprise Mehdi Guézard.
Le meilleur mec de gauche, c'est lui. Le mec qui a le plus les pieds sur terre, c'est lui. C'est un mec de droite qui vous dit ça. Le mec qui a refusé d'avoir son salaire complet à l'Assemblée nationale et d'avoir juste à hauteur du SMIC, c'est lui. Le mec qui a toujours été proche des gens,
aussi, hein.
Proche des gens, c'est lui. Quand il était à Amiens, il a fait des combats qui étaient des combats honnêtement courageux. C'est un gars qui est droit dans ses bottes, qui n'est pas là pour prendre une place ou pour avoir juste le fauteuil doré. Il fait partie de cette catégorie de politique qui travaille, qui fait de la politique par passion. Et c'est de plus en plus rare.
En tout cas, Yael, le divorce semble bel et bien consommé entre François Ruffin et Jean-Luc Mélenchon. François Ruffin qui a qualifié d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon ce matin de boulet.
C'est très très fort hein, ce qu'il a fait Ruffin là. Franchement, moi, je l'aime bien hein, Ruffin.
Pas très très fort, il aurait pu le faire bien avant déjà.
Oui, bah oui, mais enfin, il l'a fait. Voilà, il le fait. Il va même plus loin. C'est extraordinaire la séquence qu'on est en train de vivre hein, parce qu'il va même plus loin que Gabriel Attal quand même par rapport aux insoumis, ce qui est quand même fou.
Il est encore parti, il y a 24
heures. Voilà. Bah oui, enfin, je veux dire, là, on assiste vraiment à les cartes sont complètement rabattues. Et je trouve que Ruffin, vraiment, il vient de prendre sa meilleure décision.
Et pourquoi il a attendu aussi longtemps?
Il y a un seuil, quand même. Il y a un délai.
Je sais pas, je pense que c'est, enfin.
Pourquoi il y a un délai?
Le temps que tu concrétises les divergences,
ça allait déjà très mal,
très loin,
hein.
Voilà.
Enfin, il a dit publiquement.
Attends, non, je suis désolé.
Depuis le début.
Parce que
il y a un parti,
oui. Il y a un parti, une majorité.
Il n'aurait pas pu, il n'aurait pas pu prendre la décision, très rapidement en octobre?
C'est vrai.
Lorsqu'il a condamné les propos.
Rémi, tu
l'as. Non, je suis désolé. Attends. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à l'époque, François Ruffin était l'un des premiers.
Oui.
À se dire outré de la position d'un certain nombre de membres de LFI sur leur difficulté à prendre position sur ce qui s'était passé en Israël, sur le fait de qualifier le Hamas de mouvement terroriste.
C'est vrai.
Il a été le premier à dire que c'était dégueulasse, que c'était pas normal, que voilà, qu'il fallait clarifier les positions. Bon, ça c'est en octobre. On va pas revenir sur l'antisémitisme présumé d'un certain nombre de responsables de LFI. Il n'empêche que nous sommes en juillet, là je parle d'octobre, pourquoi est-il resté aussi longtemps au sein de cette formation qu'il dénonce aujourd'hui?
Parce que tu as une obligation vis-à-vis de tes électeurs, tu n'es pas propriétaire de tes voix, tu dois une certaine loyauté au parti par lequel tu as été élu, mais enfin quand même de tous les élus de la France Insoumise, c'est ceux, il y a d'autres dans dissidence. T'en as qui l'ont payé, Garrido et Corbière, ils ont été exclus. C'est d'ailleurs ça qui lui a fait comprendre qu'à un moment donné, il pouvait claquer la porte, dans la mesure où on a exclu de la structure.
Je me fais l'avocat du diable.
Tu as raison.
Je me fais l'avocat du diable, Thierry, mais est-ce qu'on. Je me fais l'avocat du diable. J'ai rien contre François Ruffin du tout. Mais je me dis, on pourrait aussi interpréter ça comme quelqu'un qui quitte le navire, qui est en train de tanguer, voire même de sombrer.
Alors moi, je crois pas. Je crois que c'est plutôt l'aboutissement d'une émancipation qui mûrit depuis déjà un bon moment. Qu'il a une stratégie présidentielle très clairement pour 2027 et qui comprend très très bien qu'effectivement, comme il l'a dit, le fait d'être accroché comme une moule à son rocher à Mélenchon, peut-être un boulet pour 2027. Donc je pense que c'est une stratégie mûrement réfléchie politique. La deuxième chose, c'est qu'il faut pas se tromper. Je vois plein de gens qui le trouvent formidable, souvent des gens de droite d'ailleurs, qui le trouvent formidable parce que droit dans ses bottes, etc. Ça reste quand même quelqu'un de gauche radicale.
Ah oui.
C'est-à-dire que son programme est un programme de gauche radicale.
Donc,
ne nous trompons pas. Mais effectivement, il est courageux sur certaines positions par rapport à la France insoumise. Et ce qu'il fait aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'une émancipation qui a mûri au fil du temps, qui remonte déjà assez longtemps, même avant le 7 octobre, où il avait déjà des divergences. Et aujourd'hui, je pense qu'il pense à sa carrière et à ce qu'il pourrait incarner dans l'après-Mélenchon, parce que l'après-Mélenchon va arriver plus vite que prévu.
Plus simplement, la ficelle a coupé, la ficelle a cassé avec les dernières déclarations de Mélenchon, des prises de position. Oui. Et là, il a décidé, qu'on appelle, de franchir le Rubicon et d'être en rupture avec un parti dans lequel il se reconnaît plus. Mais il a pris le temps nécessaire pour prendre une décision responsable. Voilà. Et Fabien Roussel, au Parti communiste,
et
aussi.
Pas pour un plat d'antilles.
Non, mais voilà, deux hommes de gauche qui font tout simplement du bon sens et du réel, c'est tout. Voilà.
Apolline Matin, dans un message posté sur X hier, le directeur adjoint du service de presse du ministère des Affaires étrangères russe a apporté son soutien au peuple français qui recherche une politique étrangère souveraine et en rupture avec les diktats de Bruxelles. Un soutien officieux, voire officiel, au RN que nous décryptons ce matin sur RMC, Nicolas Poincaré.
Ce petit texte est donc signé d'un obscur fonctionnaire, mais
il est publié sur les comptes du ministère des Affaires étrangères, accompagné d'une photo de Marine Le Pen en meeting. C'est donc bel et bien un soutien officiel de la Russie au Rassemblement national.
Est-ce qu'on peut qualifier le RN de parti pro-russe ?
En tout cas, c'est un parti qui devrait faire entrer à l'Assemblée une dizaine de députés ouvertement pro-russes, des candidats qui ont tous participé à des missions d'observation des élections russes ou bien à des voyages en Russie financés par des organisations proches du Kremlin. Par exemple, Pierre Gentillet, jeune trentenaire très proche de Jordan Bardella. Il est candidat dans le Cher, il est membre de l'association Dialogue Franco-Russe et du Cercle Pouchkine. Thierry Mariani, ancien LR qui a rejoint le RN, est le leader de cette tendance pro-russe au sein du parti. Il continue à défendre Vladimir Poutine malgré l'invasion de l'Ukraine. Pendant cette campagne, il a été particulièrement discret. On ne l'a vu sur aucun plateau de télé, comme pour faire oublier ce passé qui dérange.
Est-ce que ça t'inquiète, Thierry, cette tendance pro-russe au sein du RN ?
Non, mais ce qui est intéressant, c'est que effectivement, comme vient de le dire Poincaré, ils avaient essayé de mettre un petit peu la poussière sous le tapis en ne mettant pas trop en avant tous ces pro-Poutine, parce qu'il existe au sein du Rassemblement national des gens qui sont pro-Poutine.
Oui, puis il y a déjà eu des accointances financières, notamment avec la Russie.
Absolument, mais ça, après le fameux prêt, il est réglé, donc on peut dire que c'est une histoire.
Oui, enfin, bon, il y a eu des contacts, en tout cas.
Aucune banque française. Puisque des contacts. Aucune banque française n'avait accordé ce prêt. Ouais. Ils ont été trouvés en Russie. Voilà. Mais la poutinophilie d'un certain nombre de gens du Rassemblement national, elle est réelle. Et depuis le début de la campagne, il ne vous aura pas échappé que tout ça avait été un petit peu mis sous le tapis. Et ce communiqué de la Russie, c'est un peu le baiser de la mort quand même, parce que ça remet sur le tapis quelque chose que tout le monde voulait oublier. C'est un peu Al Pacino qui embrasse son frère, quoi. Enfin, ça c'est quand même une traite dans le parrain. C'est quand même pas un super service que rend la Russie au RN, qui tentait d'essayer de faire oublier cette poutinophilie rampante au Rassemblement national.
Yael,
non.
Moi, je trouve que pendant cette campagne, ça a quand même été abordé directement à la fois par Marine Le Pen et par Jordan Bardella, qui ont continué dans leur soutien à l'Ukraine absolue. Donc, je pense que la position officielle du parti, elle est extrêmement claire. Et d'ailleurs, Marine Le Pen, elle s'est exprimée sur ce tweet-là en disant que c'était de l'ingérence étrangère et que c'était de la manipulation de la Russie. Donc, elle n'en veut pas, en fait, de ce soutien. Elle n'en veut pas. Et elle lui dit. Voilà.
Oui, voilà.
Mais bah oui, enfin, voilà.
Périco.
Je pense que les électeurs sont fins.
Il ne faut pas confondre la détestation que nous inspire Vladimir Poutine et son régime politique et son milieu politique et le rôle de la Russie dans l'histoire. Pour en discuter régulièrement, je pense qu'en France, on n'a pas allé jusqu'au bout du débat sur l'Ukraine. Moi, je rencontre beaucoup de gens qui considèrent qu'il faut défendre l'Ukraine, bien entendu. J'allais dire corps et âme. Ah, non, c'est tout le débat.
Alors là, il y a un mais.
Il y a un mais qui arrive. À savoir que si l'Ukraine et la Russie sont en guerre, c'est parce que les États-Unis y trouvaient un intérêt et qu'on a quand même trouvé des bases de l'OTAN, voilà, près de la frontière russe, que donc les Français, certains disent, les torts sont partagés.
Ça justifierait l'agression russe?
Alors, ce qui est dit, parce que rien n'a jamais été dit totalement. Ouais. À un moment donné, le chef d'état-major de la Russie, l'armée, a dit à Poutine, si on les laisse s'armer, dans deux ans, c'est eux qui nous foutent la pilée.
Enfin, et il y a même des gens. Kiev quand même, n'oubliez pas.
Non, mais ils ont envahi. Mais parce que les Russes pensaient que s'ils n'attaquaient pas tout de suite, c'était les Ukrainiens qui auraient attaqué. Ouais. Et il y en a qui vont plus loin.
La Crimée, c'est 2014.
Non, il y a
la Crimée, c'est 2014.
Il y a des gens qui pensent que Poutine est tombé dans un piège tendu, puisqu'ils étaient attendus. Quand ils sortent, ça a été un échec, le début de l'offensive. Parce qu'ils étaient attendus. Donc, voilà, je pense que ça mérite un débat plus clair. Il n'est pas question de défendre la Russie dans l'agression et de défendre les Ukrainiens, quoi qu'il en coûte, bien entendu. Mais rappelons bien que les États-Unis n'ont pas un rôle totalement innocent dans ce conflit. C'est tout ce qu'il faut reconnaître.
Apolline Matin, avez-vous l'esprit de partir en vacances? C'est demain que commence officiellement le début des grandes vacances pour les élèves de France. Mais pour de nombreux Français, le climat politique actuel ne les incite pas à partir très loin. Ça se ressent fortement sur les réservations. C'est ce que dit Véronique Siguel, la présidente de l'hôtellerie française.
Le 10 juin au matin, on a tous ressenti un véritable coup de frein sur les prises de réservation, alors qu'on était en pleine période où les Français prévoient leurs vacances. Alors, la première semaine de juillet est à mettre aux oubliettes. Par contre, on espère que les Français regagnent un petit peu en confiance à partir de la semaine prochaine.
Péricot, tu comprends cette frilosité d'un certain nombre de Français? Bon, il n'y a pas que le climat politique. Bon, en tout cas, il peut peser. Il y a la météo aussi.
De tout temps, depuis que les clivages sont tendus, je dirais une trentaine d'années, la période électorale est une période de baisse de la consommation. Ouais. Le témoin de l'hôtellerie est le premier à le savoir. Les gens en sortent aux mains, voilà. Là, on n'est plus seulement dans une tension électorale, on est dans une tension nationale avec un risque de basculement.
Une incertitude surtout.
Alors, c'est-à-dire, entre les gens qui vous disent ça va être le cauchemar, l'autre que ça va, si c'est les uns qui gagnent, ça va être le cataclysme, ça va être la ruine, les étrangers vont être expulsés, la France insoumise va prendre le pouvoir, ça va être... Évidemment, les gens n'ont pas envie d'aller passer du bon temps et du plaisir. Donc, ce qu'on a envie de leur dire, c'est laisser passer dimanche soir. Il est trop tard pour réserver à l'étranger. Donc, mes chers compatriotes, restez en France, découvrez votre beau pays, faisons un tourisme national, enrichissons, apportons ces quelques 25 milliards d'euros que la nouvelle majorité devra trouver pour renflouer les caisses. Eh bien, contribuons à ce renflouement par un tourisme national, patriotique, dans nos beaux pays, dans nos belles régions, dans nos belles provinces, et restons pour une fois de temps en temps, j'adore les Seychelles, les Tuamotu, les îles Tonga, et on peut aller aussi à l'île de Bréa, à Noirmoutier, et puis même sur l'île de la Cité, il va se passer des choses formidables. Voyez.
Tu n'es pas obligé de me répondre, Chirou, cet été ? Dans quel coin ?
Je reste scrupuleusement en France.
Tu m'aurais dit à Ouarzazate, je me serais barré. Hein.
Mais je rêve d'aller à Ouarzazate. Mais bon, c'est très très loin. Je ne veux pas de bilan carbone dans mes vacances.
Mais tiens, oui. Toi qui aimes la France, qui nous parle de notre patrimoine et notre pays, nos paysages français,
oui.
Est-ce que ça te dirait de faire un tour de France ?
Ah oui. Ah
ouais. À vélo, par exemple.
Ah oui. Bah, ça tombe bien. Petite traîne.
Ça tombe bien. Christophe Cessu est avec nous. Bonjour, Christophe.
Moi, j'ai connu.
Salut, Christophe.
Moi, j'ai connu Poulidor, moi.
C'est Pierre-Yves. Pardon, vous ne l'avez pas dit, mais c'est Pierre-Yves, c'est très bien aussi.
Tu sais pourquoi ? Parce que c'est les grandes vacances et Christophe, il a déjà commencé, lui.
Pierre-Yves, c'est même mieux que Christophe, parce que Christophe, c'est une vraie feignasse. Salut, Pierre-Yves. Merci d'être avec nous.
Eh oui,
la sixième étape aujourd'hui.
Exactement. C'est peut-être pas un hasard parce que tu sais, on est aujourd'hui du côté de Mercurey, Chassagne, Puligny, Montrachet. Oh. Donc voilà peut-être pourquoi le chef a décidé de prendre une journée de repos.
Les grands crus de Bourgogne.
Et oui, magnifique. Une étape plate comme la main. Par contre, entre Côte d'Or et Saône-et-Loire, on aura sans doute un sprint tout à l'heure au bout des 163 km. Ça vient de partir à l'instant. Donc on va avoir du spectacle avec déjà un premier sprint intermédiaire dans quelques kilomètres. Donc ça va rouler vite, très certainement. Et puis on s'intéressera au vent. Et pourquoi pas y avoir quelques petites bordures aujourd'hui.
Bon, attention alors. Soyez prudents. Également sur les motos, notamment sur la moto RMC. Merci beaucoup Pierre-Yves. L'intégral tour, c'est tout de suite sur RMC. Et nous, on se retrouve demain, Estelle Midi, sur RMC et RMC Story à partir de midi. À demain.